L'Orient décrypté avec Jean-Pierre Perrin.
L'Orient décrypté sur Radio Orient avec vous, Nadia Bencher, pour ce nouveau numéro que nous consacrons, Actualité oblige, au Moyen-Orient, région où toutes les crises ne suivent pas le même rythme. Il y a d'abord l'Iran avec cette impression de mouvement permanent, frappe, riposte, médiation, contre-annonce, menace sur Hormuz, diplomatie relancée, puis aussitôt fragilisée. Une actualité en yo-yo qui change sans cesse mais sans produire de véritable sortie. Et puis, il y a les territoires palestiniens, Gaza, où l'urgence humanitaire ne cesse de s'aggraver, et la Cisjordanie, où la colonisation, les violences et les déplacements forcés s'installent dans le temps long. Autrement dit, d'un côté, une crise qui bouge trop pour se résoudre, de l'autre, une crise qui dure trop pour faire événement. On en parle avec vous, Jean-Pierre Perrin, bonjour.
Bonjour Nadia, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Vous êtes grand reporter, spécialiste de l'Iran, du Proche et Moyen-Orient. Vous êtes également écrivain, auteur de nombreux ouvrages sur cette région qu'est le Moyen-Orient, dont vous êtes grand connaisseur. Alors on commence, si vous le voulez bien, Jean-Pierre Perrin, par l'Iran, parce que c'est le front qui capte l'attention. Mais précisément, ce front donne le sentiment de changer tout le temps, sans déboucher sur une vraie clarification.
Alors, il y a des phases d'accélération de ce conflit de basse intensité, comme ça s'est passé avec les nouvelles frappes sur Koweït et sur Bahreïn, à la suite, justement, de frappes américaines. On reviendra sur ces frappes américaines, parce qu'elles sont relativement importantes. Et puis, il y a ce qui ne bouge pas, c'est-à-dire cette guerre qui continue, cette invasion du Liban qui continue par l'armée israélienne, et les deux dossiers sont liés. En tout cas, pour la République islamique, il est impératif de lier ces deux dossiers. Il n'y aura pas de véritable avancée dans les négociations tant que la question libanaise ne sera pas résolue par une, soit un cessez-le-feu, soit par des discussions beaucoup plus productives que celles que nous avions déjà évoquées et, comme nous le laissions entendre, non débouché sur rien.
Alors justement, dans ce yo-yo permanent autour de l'Iran, une fois on est proche d'un accord, une fois ce sont des frappes, qu'est-ce qui change vraiment sur le front ?
Alors, ce qui change sur le front, c'est la stratégie iranienne. Elle semble avoir pris conscience que Donald Trump ne veut pas le retour de la guerre, que son calendrier électoral rend difficile cette reprise des hostilités, qu'il y a la Coupe du monde de football, qu'il y a les 250e anniversaire de la Fondation de l'Amérique, qu'il y a un certain nombre d'événements qui rendent le calendrier politique du président américain un peu complexe pour pouvoir en même temps mener des opérations importantes sur l'Iran. Mais perdure donc une guerre qu'on va appeler de basse intensité, entretenue à la fois par les États-Unis et par l'Iran. Un mot sur les frappes qui se sont déroulées, parce qu'il est toujours très intéressant de voir quelles sont les cibles visées. À partir du moment où on connaît ces cibles, on peut en déduire pas mal de choses. Et là, c'est essentiellement le détroit d'Hormuz qui a été la cible des frappes américaines, c'est-à-dire les batteries anti-aériennes, probablement un certain bateau de guerre iranien, les systèmes anti-radar également, et puis des infrastructures militaires le long de la côte de ce détroit d'Hormuz. Donc on voit encore que ce détroit est au cœur du conflit actuel. Et puis, disons juste un mot du côté de Téhéran, ils viennent d'annoncer que le blocus du détroit d'Hormuz était à nouveau total. Donc, on peut s'attendre à une remontée du cours du brut en provenance de ces régions.
Alors, question importante, est-ce que la négociation qui se poursuit, on l'entend bien, des deux côtés, est-ce encore une négociation crédible ?
Alors, elle est crédible dans la mesure où il n'y a pas d'autre choix que de continuer à négocier, puisque la guerre est en quelque sorte paralysée. Je crois qu'il est important de dire, c'est que l'Iran a le sentiment d'avoir gagné. Et donc, pourquoi a-t-elle gagné ? Parce qu'elle continue d'envoyer des missiles à droite, à gauche, sur les Émirats, sur Bahreïn, sur le Koweït, sur Israël, sur la Jordanie maintenant. Donc, on voit qu'elle a ce sentiment un petit peu d'avoir triomphé de tout ce qui pouvait finalement la faire tomber. Le régime est toujours là, il a gardé une partie importante de sa puissance. Le Hezbollah n'est pas mort puisqu'il continue de se battre et donc il voit en même temps qu'il possède le détroit d'Ormuz et qu'il est capable avec ce détroit de paralyser une partie importante de l'économie mondiale.
Au fond, Jean-Pierre Perrin, cette crise iranienne ne change-t-elle pas sans cesse pour ne rien résoudre ?
Alors, il est encore un petit peu trop tôt pour le dire, mais un événement qui me semble important, qu'on vient d'apprendre, c'est que vous savez que le guide suprême Ali Khamenei a été tué le 28 février, c'est-à-dire déjà maintenant depuis plusieurs mois. Eh bien, on annonce enfin ses funérailles. Funérailles qui vont être absolument grandioses. Hein, la République islamique l'a fait savoir. Elles auront lieu, ses funérailles, dans sa ville natale de Mashhad, qui est une des grandes villes de pèlerinage en Iran, qui accueille le tombeau de l'imam Reza, le seul imam du chiisme qui soit enterré en Iran. Donc ça va être grandiose, il va y avoir des millions de personnes, du moins c'est ce qu'annonce le gouvernement iranien. Et donc ça montre en même temps qu'il pense que la guerre ne reprendra pas. Il ne va pas faire ce genre de cérémonie colossale, avec cette fraternité colossale qu'il y aura, s'il pense que la guerre reprendra demain. Maintenant, eh bien, le processus des funérailles est enclenché. Et donc ça, c'est un signe de l'état d'esprit des dirigeants iraniens.
Là, j'ai devant moi une dépêche qui dit que le cessez-le-feu, enfin, selon l'Iran, le cessez-le-feu est presque dénué de sens. Que pouvons-nous retenir de cette phrase ?
Alors, le cessez-le-feu est dénué de sens, oui. Alors, nous sommes dans la guerre des mots, nous sommes dans la guerre de l'information, nous sommes dans la guerre de communication. C'est vrai qu'il est assez dénué de sens, mais en même temps, il empêche qu'on revienne à la situation d'avant avec des frappes considérables sur l'Iran et puis des répliques également extrêmement fortes du côté iranien. Donc, ce cessez-le-feu, il est sans doute moribond, mais il maintient quand même un certain équilibre. Et on voit que les Iraniens ont sans doute, dans leur pensée stratégique, la volonté d'encore peut-être de frapper, d'aller un petit peu plus loin dans leur frappe, tout en les gardant limités, toujours pour tester l'ennemi américain.
Alors, si ce front aspire autant l'attention, c'est aussi parce qu'il a des effets immédiats bien au-delà de l'Iran. Pourquoi justement ce front iranien continue-t-il de monopoliser l'attention internationale ?
Tout simplement à cause des effets économiques qu'il produit. Nous avons des pays qui sont extrêmement vulnérables à la situation de blocage. Nous avons les Philippines, nous avons la Malaisie, par exemple. Nous avons le Vietnam, nous avons la plupart des pays du sud-est asiatique. Alors, pour le pétrole, certes, mais pas seulement pour les engrais. Sans les engrais en provenance du golfe arabo-persique, eh bien, les agricultures vont mourir. Et là, c'est quelque chose de considérable avec des risques de famine. Donc, on voit qu'on est dans une situation quand même extrêmement périlleuse, non seulement pour la région, évidemment, pour la région d'abord, mais ensuite pour le reste du monde, oui, si, évidemment, pour l'Europe, puisque si la crise perdure, eh bien, on peut tabler que l'économie française, pas sur 2026, mais sur 2027, aura un taux de croissance négatif. Et donc, ça s'appelle une récession. Et cela inquiète beaucoup aussi les politiques français.
Jean-Pierre Perrin, à quoi peut-on s'attendre dans les prochaines heures ou les prochains jours ?
Alors ça, c'est bien difficile de savoir à quoi on peut s'attendre, puisque on a
peut-être quelques scénarios.
Non, un président qui fait des zigzags, mais on sait qu'il veut se sortir du bourbier dans lequel il s'est lui-même enfoncé. Alors, on peut s'attendre peut-être à une distance de plus en plus grande entre la Maison-Blanche et Tel Aviv. Pourquoi ? Parce que le président Trump voit bien que le Liban, la question libanaise, est ce qui bloque actuellement les négociations. Pas seulement, mais ça constitue une part importante du dossier. Et que dans cette question libanaise, nous avons un Premier ministre qui est décidé, qui est engagé dans une fuite en avant. On ne peut pas appeler ça autrement, une fuite en avant, avec dans sa perspective les élections avant la fin de l'année. Et là, dans ces élections, il entend bien les remporter. Et la guerre au Liban, eh bien, est assez populaire en Israël. Tout simplement, les Israéliens ne veulent plus recevoir des missiles, même si le ratio entre les morts libanais et les morts israéliens, évidemment, va de 1 à 100. On est bien d'accord. Mais ça reste quand même, pour les Israéliens, un sujet d'inquiétude permanent, en particulier au sud de la Galilée. Et donc, c'est un enjeu électoral. Et là, Netanyahou n'a pas l'intention de céder, mais ça risque de contrarier son ami Trump. Donc, on peut s'attendre à un élargissement du fossé entre les deux dirigeants.
Cette crise iranienne, cette crise au Moyen-Orient, cette instabilité finit par faire passer au second plan d'autres conflits dans l'agenda international.
Oui, bien sûr. Alors, nombre de conflits. Par exemple, on a une situation en Turquie qui est compliquée aussi pour l'opposition. On n'est pas très loin non plus d'échéances électorales. Donc, on a une opposition, par exemple, qui est en train d'imploser. Alors, c'est quand même, on espérait quand même, les Européens, une grande partie des Turcs espéraient quand même se débarrasser d'Erdogan, qui est de plus en plus autoritaire, qui sans doute est malade, qui est en plus un comportement de plus en plus à la limite fascisant, on peut dire. Et patatras, voilà l'opposition qui se dynamite. Ça, c'est une des crises dont on n'a pas parlé. Et puis, il y a la situation en Cisjordanie, il y a la situation à Gaza.
C'est ça, dans les territoires palestiniens, exactement.
On a une temporalité de crise qui est celle qui dure depuis 1967, c'est-à-dire le début de l'occupation de la Cisjordanie, avec déjà à cette époque du premier début de colonisation. Alors, évidemment, au fil des années, cette colonisation est devenue de plus en plus importante. Elle est maintenant extraordinairement puissante, cette colonisation. On estime à 750 000 colons installés en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Donc on voit une annexion rampante du pays. Et à ce sujet, nous avons un rapport d'Amnesty International qui est extrêmement sévère.
Qui parle de nettoyage ethnique.
Qui parle de nettoyage ethnique, et aussi qui mentionne l'article 49 de la Convention de Genève qui interdit la déportation et le transfert des populations. Et nous sommes dans ce cas de figure, alors aussi bien dans les territoires cisjordaniens qu'à Gaza, nous sommes dans une violation complète de cet article 49 de la Convention de Genève. Et puis on peut dire d'une façon générale qu'Israël s'affranchit de plus en plus du droit international. Nous avons donc ce rapport, et puis nous avons une mini-conférence, disons, qui s'organise à Paris, avec une quinzaine de pays invités, qui s'appelle
la conférence des sociétés israéliennes et palestiniennes pour la solution à deux États.
Alors, on peut s'étonner, vu la situation actuelle en Cisjordanie, par exemple, décide de faire cette conférence à Paris. Donc, à ce moment-là, il y a des autres urgences, et puis on sait déjà qu'elle ne va déboucher sur rien. Plus intéressantes, en revanche, sont les condamnations maintenant des dirigeants israéliens, puisque nous avons un deuxième ministre israélien
qui se trouve interdit de séjour. Territoire français.
Voilà, et donc en France déjà, mais il est déjà dans d'autres pays, en Espagne, en Italie, au Canada, par exemple. Donc, nous avons une prise de conscience peu à peu, mais très lente et trop tardive de la communauté internationale et de l'Europe en particulier, que ce qui se passe dans les territoires occupés, ce n'est plus acceptable, mais les réactions sont encore mille fois trop timides.
Alors, mais justement, les Européens, pourquoi n'arrivent-ils pas parler d'une même voix, ou comment n'arrive-t-on pas à un consensus européen sur la question?
On va partir d'un fait. Regardez un fait qui témoigne de l'annexion de facto de la Cisjordanie occupée par Israël. Donc, ce fait, c'est que nous avons une annonce du gouvernement israélien de la création de 4 000 nouveaux logements, en Cisjordanie, qui va tronçonner en deux cette région, cette Cisjordanie occupée. Donc, ça va rendre impossible quoi, la continuité territoriale.
C'est une politique de morcellement.
Absolument, et d'annexion rampante. Hein. Et puis, il va être difficile de revenir en arrière. Donc, nous avons une politique de prédation territoriale qui est importante. Et donc, est-ce que vous avez entendu vraiment l'Europe réagir sur ce point ? Non. Non, alors qu'on a dans une violation flagrante de résolution des Nations Unies, de cette Convention de Genève, du droit international. Donc, tout simplement parce que l'Europe est très divisée et que ça devient assez commode de dire pour les pays, pour certains pays du moins, ah ben non, il faut qu'on ait une décision européenne pour pouvoir faire une véritable condamnation, revenir sur l'accord d'association qui lie l'Union européenne avec Israël, par exemple. Mais il faudrait quand même que chaque pays, individuellement, monte au créneau, monte à l'assaut. C'est ce qu'a fait l'Irlande, c'est ce qu'a fait l'Espagne, c'est ce qu'a fait l'Italie maintenant, et même l'Italie de Mme Meloni. Et donc, la France, là, elle est quand même vraiment à la remorque. Elle n'est pas à la hauteur de sa réputation. Elle n'est pas à la hauteur de son engagement dans le monde arabe. Je pense que du temps du président Chirac, ne parlons pas de De Gaulle ni de Pompidou, mais du temps du président Chirac, ça ne se serait pas passé ainsi.
Finalement, est-ce que l'Union européenne pourrait-elle un jour peser justement dans cette décision de sanctionner véritablement Israël ?
On n'en prend pas tout à fait le chemin parce qu'il y a une chose importante à dire, c'est que les colons, et c'est là l'Amnesty International l'établit très bien, les colons ne sont pas seulement des extrémistes, hein, mais ils sont le bras armé, c'est la formule utilisée par Amnesty International, ils sont le bras armé de la politique de l'État hébreu qui vise à dépeupler complètement ce qu'on appelle la zone C. Vous savez, la Cisjordanie est partagée en trois zones. La zone C, qui est une zone où l'armée israélienne contrôle, organise le contrôle. Et puis, nous avons une zone A et nous avons une zone B qui sont soit totalement sous contrôle palestinien, soit un partage. Et là, nous avons, avec les autorités israéliennes, donc nous avons une annexion de facto de cette zone C et qui va rendre impossible la création d'un État palestinien. Et puis, nous avons aussi les populations bédouines, ne les oublions surtout pas, qui souffrent énormément avec des villages qui sont où les habitants sont chassés de leurs maisons, notamment le village de Zanouta et le village de Ain Samia, où on procède à une épuration ethnique.
Comment la communauté internationale peut-elle peser de son poids pour du moins freiner ou arrêter justement ces exactions ?
Alors, vous savez, pour défendre Israël, on dit Israël a le droit de se défendre. Et ça, c'est finalement l'argumentaire qui est sans cesse utilisé, c'est pour la défense d'Israël. Il faut revenir sur ce concept. On n'en est plus là. On a maintenant Israël en tant que pays agresseur. Alors, c'était vrai dans le passé, il fallait défendre absolument Israël en 67, en 73. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui a une politique qu'on pourrait qualifier d'impérialiste. Donc, je crois qu'il faut revenir sur ce concept. Mais je crois que là, personne en Europe n'aura le courage, ou peut-être à l'exception de l'Espagne ou de l'Irlande, d'aller jusque-là.
Pour finir, Jean-Pierre Perrin, à quoi pouvons-nous nous attendre dans les prochains jours ? Est-ce que Israël continuera de profiter du fait que les yeux soient rivés sur le Moyen-Orient pour justement encore étendre ses annexions ?
Oh, évidemment, c'est quand même de bonne guerre, si je puis dire, pendant que l'attention du monde est tournée vers ce qui l'inquiète le plus, c'est-à-dire la réduction du trafic dans le détroit d'Ormuz, la hausse du prix du pétrole, la baisse des bourses, la situation économique qui devient de plus en plus paralysée par tous ces événements. Évidemment, Israël a beau jeu de continuer ses annexions. Alors, parce qu'on n'a pas parlé de Gaza, mais la partie qui a été prise par Israël correspond à environ 54, 55, 56% du territoire de Gazaouite, qui est déjà une minuscule enclave. Donc, on voit qu'effectivement, cette guerre permet à l'occupation israélienne de se renforcer, de se durcir. Et on a l'impression que la justice israélienne, qui était longtemps extrêmement consciente et qui agissait pour limiter évidemment les exactions. Alors on a l'impression qu'elle a complètement baissé les bras. On ne compte plus les assassinats de bergers palestiniens par des colons qui sont totalement laissés impunis.
Merci Jean-Pierre Perrin d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Je précise que vous êtes écrivain, grand reporter, spécialiste de l'Iran, du Proche et Moyen-Orient. C'est ainsi que s'achève cet épisode de L'Orient décrypté que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio Orient et Spotify. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.
L'Orient décrypté avec Jean-Pierre Perrin.